Bien, merci de me passer la parole. Donc effectivement, je vais intervenir sur des images particulières. L'idée étant évidemment que nous utilisons l'image comme source en histoire, mais là, plus qu'utiliser l'image comme source, c'est une démarche peut-être différente, c'est analyser l'image en tant que telle, d'une part pour comprendre sa construction, Jean-Pierre Chrestien parlait de son histoire, rechercher donc les buts d'une mise en scène, étudier peut-être la volonté pédagogique de cette affaire, et essayer, alors bon, je suis limité par le temps, donc j'irai assez vite quand même, mais essayer d'en évaluer donc la réception et la réussite. Alors, en conséquence, donc, la question que je me suis posée par rapport à cette colline du pouvoir qu'évoquait M. Ballandier, qui est effectivement comprise comme colline du pouvoir depuis très longtemps, et dont je vais vous montrer quelques photos du site d'abord pour que vous vous repériez un petit peu, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les volontés politiques qui ont été à l'œuvre dans cette représentation, non seulement... Là, je ne parlerai qu'une petite partie de ce qui est possible de décrire, mais non seulement de l'unité nationale, mais aussi la représentation d'un pouvoir d'État, puisque c'est bien le sujet de cet après-midi et de ces deux jours. Donc, je vais prendre l'exemple de Bamako, qui, lors des deux présidences d'Alpha Omar Konaré, s'est doté de nombreux monuments. Ceux qui ont été à Bamako dans ces dernières années ont pu s'en rendre compte, et c'est très, très impressionnant. Mais je prendrai particulièrement l'exemple donc, de la colline donc, dite du pouvoir, comme il vient d'être dit, la colline de Koulouba, qui a été depuis très longtemps, effectivement, la colline du pouvoir, puisque c'était là qu'était installé le palais du gouverneur à l'époque coloniale, et que est toujours installé dans cette colline donc le lieu du pouvoir, puisque c'est là aussi qu'est à l'emplacement donc du palais du gouverneur le palais présidentiel actuel. Donc, sur cette colline, il y a aussi de nombreux monuments et squares mémoriels qui ont été installés. Et ce que je voudrais essayer de comprendre, alors c'est une interprétation évidemment, hein, mais c'est quels ont été les buts réels du président Konaré, c'est-à-dire donc d'un pouvoir d'État nouvellement démocratique dans un pays tel que le même. Alors, mes hypothèses, c'est que par une réappropriation, on va essayer de le voir, une réappropriation de l'histoire coloniale, par l'inscription, en quelque sorte, d'une histoire du pouvoir d'État dans la longue durée, par la mise en perspective aussi des pouvoirs à la fois précoloniaux, coloniaux et postcoloniaux, c'est-à-dire à la fois ceux des empires et des formations étatiques africaines précédant la conquête, des autorités coloniales et du pouvoir du Mali indépendant, il y a eu une volonté de montrer la continuité du pouvoir, d'inventer donc la longue durée des pouvoirs maliens, et peut-être aussi d'exorciser donc la réalité des pouvoirs exogènes, coloniaux, en les réinscrivant dans une histoire des pouvoirs maliens ou de la continuité du pouvoir. Alors, le corpus, donc, le cadre, c'est celui de la colline de Koulouba. Donc, je vais vous montrer tout de suite quelques photos pour vous situer l'affaire. Donc, je ne suis pas sur PowerPoint, j'ai pas eu le côté très moderne, mais tant pis. Alors, donc, nous voici sur la colline de Koulouba. Donc, pour ceux qui connaissent Bamako, attendez, c'est en train de faire carrément un diaporama, mais tant pis, ça va tourner en boucle, vous verrez au fur et à mesure. Il y a donc le Niger qui coule donc dans la vallée. Bamako s'est développé à partir de ce Niger, et sur une des deux collines qui entourent donc Bamako, il y a l'installation donc du gouvernorat colonial, puis ensuite du palais présidentiel. Je vais essayer quand même d'arrêter cette affaire pour en rester à quelque chose que je pourrais commander, ce qui m'intéresserait. Oui, ça sera peut-être mieux, oui. Bon. Alors, ici donc, nous sommes sur la colline du pouvoir. En face, maintenant, il y a une autre colline sur laquelle s'est installée la FLASH, donc la faculté des lettres et sciences humaines de Bamako. Donc, il y a la colline du savoir qui fait face à la colline du pouvoir, donc c'est très symbolique. Et sur cette colline, on monte par une route qui serpente sur la colline. On voit donc la plupart des quartiers de Bamako. Et la colline du point G, donc l'hôpital, se situe un peu plus loin sur la colline. Une grande arche ouvre sur l'avenue qui mène au palais présidentiel, à côté duquel sont placées les archives nationales. Alors, archives nationales qui sont en train de descendre vers les quartiers administratifs près du fleuve, mais qui sont encore d'ailleurs en grande partie situées là. Et donc, juste à côté, par ici, donc, à côté donc, des archives nationales, dans le fond, là, on le voit d'un peu loin parce que les gardes n'étaient pas très coopératifs sur la prise de vue du palais présidentiel. Bon, mais vous avez au fond, donc, le palais présidentiel rénové du palais du gouverneur. Donc, dans le corpus que j'ai utilisé, c'est c'est les bâtiments, les monuments qui sont sur cette colline du pouvoir. C'est-à-dire, en fait, en dehors du palais présidentiel et des archives nationales, cette porte monumentale que vous avez vue, sur laquelle je vais m'étendre, mais surtout tous les squares qui ont été installés autour, donc les squares historiques, qui sont répartis en plusieurs thèmes. Alors notamment, il y a les squares des explorateurs, ceux des présidents, ceux du Nouveau Mali, et puis un mur, qui est le mur du Kampara, sur lequel je vais revenir, qu'on pourrait appeler le mur historique, en tout cas sur lequel il y a une série de fresques qui représentent donc les différentes étapes de l'histoire du Mali. Alors, on trouve donc plusieurs types de représentations et d'iconographies monumentales, donc des fresques murales sur le mur qui sont en semi-grisaille, des statues et des bustes d'origine coloniale ronde-bosse, et par ailleurs, issus donc des œuvres du Mali, des portraits céramiques incrustés dans des stèles et des cartes monumentales que nous allons voir au fur et à mesure. Alors, je vous propose de commencer par regarder donc ce qui se passe sur le mur des fresques historiques que j'ai classé un petit peu par ordre, donc ce qui tient du Mali précolonial, ce qui tient ensuite de la conquête et des résistances donc à la colonisation, ce qui tient donc de la vie coloniale, ce qui tient donc aussi des pouvoirs coloniaux et ensuite le Mali indépendant. Donc je vais aller assez vite parce que, évidemment, on n'a pas trop le temps, mais quand même quelques images. Donc au niveau précolonial, sont représentées donc un certain nombre de choses. Alors ce mur, il a été réalisé en 97-98, il fait plusieurs centaines de mètres. C'est en fait le mur du Kampara, hein, donc en grande partie la garde présidentielle. Et il y a 26 panneaux qui racontent quelque chose comme 150 ans, un siècle et demi d'histoire. Donc depuis les temps immédiatement précoloniaux, les résistances à la colonisation, donc jusqu'au Mali indépendant, juste indépendant, puisqu'en fait la dernière fresque représente Modibo Keïta, donc le premier pouvoir. Donc on trouve 31 images sur ces 26 panneaux, qui sont pour la plupart recopiées de gravures, de dessins ou de photos coloniales. Et je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas réussi à retrouver donc l'auteur de ces fresques, mais en réalité c'est plus un copiste hein, qu'un auteur, puisque donc on se trouve avec des illustrations qui existent déjà par ailleurs et qui sont de différentes origines. Donc au niveau précolonial, plusieurs thèmes. Il y a donc, on a vu donc un jeune de la noblesse Rambara, mais aussi un cavalier de couleur. L'esclavage qui est rappelé, donc l'esclavage précolonial, puisqu'en fait là, il est indiqué, je ne sais pas exactement pourquoi, d'ailleurs 63-66 précisément. Hein. Alors je suppose que c'est simplement parce que il y a justement une copie d'une photo ou d'une gravure de ce moment-là. Tombouctou, donc, vu par René Caillé, c'est-à-dire vraiment avant la colonisation et d'un dessin, en fait, de la relation de René Caillé que vous connaissez certainement par ailleurs. Et ensuite, des personnages qui étaient donc des chefs au moment du début de la colonisation. Ici, par exemple, donc, des chefs Bambara, donc de Bamako. Alors, ces images, donc vous voyez, ne sont pas particulièrement marquantes. Il y a donc, c'est plus en fait des personnages hors pouvoir. Mais malgré tout, il y a quand même ces chefs. Et puis il y a ce début donc de prise en compte des pouvoirs. Alors, deuxième type de fresque, ceux de la conquête et de la résistance. Donc vous retrouvez Babemba, le fameux Babemba, et son tata de Sikasso, donc avant le siège de Sikasso. Chebun, que vous connaissez peut-être pas, qui était en fait un chef touareg au moment donc de la conquête, et qui donc est jouxté de Firoun Agalinsar, qui était lui aussi quelqu'un, le chef des Iwilimindan, qui a été un grand résistant au, à la conquête coloniale, mais qui ensuite même s'est révolté en 1916, alors que l'administration coloniale était déjà établie. Et puis, alors Chebun, auparavant, s'était lui opposé à l'avancée française vers Tombouctou. On retrouve l'Albami Samori Touré, qui, comme ben, vous connaissez son histoire, lui aussi a eu à combattre les Français. El Hadj Omar Tall et Koumi Diossé Traoré, qui lui aussi donc a été quelqu'un qui s'est opposé effectivement donc à la résistance. Alors évidemment on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais aller assez vite quand même sur la description de ces différents personnages. Le passage de la troupe sur un pont flottant, donc les circonstances de cette résistance, la bataille de Sansandingue qui en fait en, à moitié partie. On retrouve encore Amadou. L'illustration donc des anges de l'environnement de Samori et certains combats comme celui de Médine par exemple, donc représenté deux fois d'ailleurs, hein, et donc les batailles qui ont marqué cette, cette résistance. Donc là vous voyez que dans cette, ce passage-là, en fait les grands résistants qui sont pointés du doigt sont, sont pas franchement, comme dans la période précédente, des cavaliers ou de la jeunesse, etc., mais bien des pouvoirs, hein, des pouvoirs qui sont en fait des pouvoirs du Mali immédiatement précolonial, ou du Soudan français, avant le Soudan français, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, puisqu'il y avait donc plusieurs pouvoirs, mais ce sont bien là des pouvoirs d'État hein, qui, se, qui sont mis en place. Après ce, ce passage, donc, autre élément, les pouvoirs coloniaux. Alors, les pouvoirs coloniaux, c'est intéressant parce qu'il y a deux personnages, donc le colonel Borny Desbordes, qui, comme vous le savez, donc, a été celui qui a fait la prise de Bamako, hein. Et puis l'initiateur, en quelque sorte, de la campagne qui a amené à la prise du pouvoir de la boucle du Niger par les Français, le général Federbe. Il se trouve que le général Federbe est à un bout de ce mur des fresques, et à l'autre bout, c'est Modibo Keïta. Donc la position aussi est assez intéressante entre ces deux pouvoirs, l'un évidemment colonial et à la limite ayant présidé à la prise de pouvoir colonial, et l'autre évidemment malien indépendant et ayant présidé finalement à l'indépendance du Mali. Alors en même temps qu'il y a des pouvoirs coloniaux qui sont clairement présentés, il y a aussi toute une série de fresques sur la vie coloniale qui là représente des gens qui sortent du pouvoir, donc je passerai peut-être plus vite dessus, des gens par exemple comme Marchou qui a fondé un institut contre la lèpre à Bamako, des soldats de l'armée coloniale 39-45, mais aussi des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale, des tirailleurs en général là situés dans un contexte africain, et puis des constructions militaires coloniales comme le premier fort de Bamako, qui donc là aussi représente bien la colonisation, mais donc déjà installée et hors conquête. Et enfin, donc, des personnages du Mali indépendant. Donc, je vous ai parlé donc des Modibo Keïta, donc qui clôt la, ou qui suivant le sens dans lequel on le prend, ou qui débute donc cette, ce mur des fresques. Donc, le premier président de la République du Mali. Donc là, sont indiquées ses dates de vie et pas de, de pouvoir, hein, bien sûr. Et puis un autre panneau qui représente, alors là, qui est plus à la fois pouvoir et culture, puisque Banzou Mana Sissoko est un des grands griots de la ville de Bamako, mais aussi Awa Keïta, donc première femme députée du Mali, mais aussi écrivain. Hein, donc on se trouve avec cette double représentation, à la fois pouvoir et culture. Alors, ce square, donc, enfin pas ce square, ce mur plutôt, est intéressant, vous voyez, puisque il y a donc à la fois des représentations du pouvoir et de la vie des gens en quelque sorte, mais particulièrement donc quand même une insistance sur ce pouvoir qui est situé sur un mur, hein, donc on le suit au fur et à mesure, donc une insistance sur finalement une lignée de pouvoir qui sont à la fois précoloniaux et résistants, coloniaux et post-coloniaux. Alors, ce mur est un des éléments hein, de la colline de Kouluba, avant donc la grande arche qu'on a vue, qui elle amène donc au palais proprement dit. Il y a un autre endroit qui est intéressant, qui est le square des explorateurs. Alors, ce square des explorateurs, c'est un petit square, effectivement, donc au milieu duquel il y a deux enfants en train de lire, et on y retrouve donc les grands personnages qui ont parcouru donc la région avant la conquête coloniale, donc le Major Lang, mais aussi René Caillé. On se trouve avec président à ces explorateurs, Borny Desbordes lui-même, entouré donc, on l'a vu déjà, des deux autres, mais aussi Mage, Pierre Soleillet, qui s'est promené donc particulièrement dans le Sahara, à Cuart. Et là, on se trouve dans une situation d'un square qui a récupéré en fait toute la, enfin pas toute, mais une partie hein, de la statuaire coloniale, avec entre autres, notamment président à ces différents explorateurs quand même, la statue qui avait été déboulonnée, qui avait été reléguée dans un coin de Bamako, on ne sait plus où elle était, mais qui a été ressortie pour l'occasion et qui maintenant trône en plein milieu de ce square des explorateurs. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment franco-français. On pourrait, enfin franco-français, c'est un peu exagéré parce qu'il y a des explorateurs qui ne sont pas français, mais enfin en tout cas coloniaux-colonial, et où le Mali lui-même n'intervient pas du tout en termes de gens originaires du Mali. En revanche, le square des présidents, lui, fait évidemment la part belle au président du Mali indépendant. Donc, on va y retrouver Moussa Traoré, alors excusez-moi, ils sont pas dans l'ordre, mais aussi, bien sûr, Modibo Keïta, Amadi Toumanou Touré. Alors, ce qui se trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu besoin, vu qu'il s'est fait réélire, de faire une cinquième stèle pour le dernier président en date. Je vous rappelle que ATT a été celui qui a donc récupéré le pouvoir, qui a fait chuter en fait le président Moussa Traoré et qui a promis donc aux Maliens qu'il rendrait le pouvoir au civil, qu'il l'a fait. Et donc le premier président civil en fait du Mali, qui était donc Alpha Omar Konaré, qui a fait ses deux mandats et à qui a succédé de nouveau donc après Amadou Toumani Touré, qui est toujours actuellement président. Et enfin, pour finir donc cette description, et puis après on essaiera de parler un petit peu de cela, il y a donc un square au Mali nouveau, où à la fois donc vous excuserez la prise de vue, là on voit le photographe, c'est très mal fait, mais tant pis, une stèle aux 701 communes nouvelles de la décentralisation, et donc une grande carte monumentale qui montre toutes les nouvelles régions du Mali, donc toutes le nouveau découpage administratif issu de la décentralisation, avec une légende montrant effectivement les différentes villes qui sont à la tête de ces régions. Donc, si on regarde donc ces différents lieux, qui sont tous rassemblés au même endroit, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux pas entre, d'abord le square des présidents est juste en face du square des explorateurs, le mur est dans le prolongement. Donc, il y a bien une représentation générale à la fois du Mali, mais aussi des pouvoirs, et donc évidemment, je vais mettre en exergue particulièrement les pouvoirs. Donc on retrouve ces pouvoirs résistants, ces pouvoirs coloniaux, les leaders de l'indépendance et les présidents du Mali indépendant, qui débouchent donc sur le site du pouvoir lui-même, c'est-à-dire donc l'arc de triomphe, on pourrait dire, et le palais présidentiel. Et si l'on veut analyser les choses, il faut évidemment essayer de comprendre donc les discours qui ont pu présider donc à l'établissement de ces différentes représentations, mais aussi le contexte, hein, évidemment, de la réalisation. Alors, la représentation de ces pouvoirs est clairement exprimée, notamment dans les discours officiels d'inauguration. Hein, donc, je ne vais pas vous les infliger de nouveau, mais il est dit clairement qu'il y a une fonction mémorielle, donc on peut le comprendre assez facilement. Il est dit franchement qu'il y a une volonté, alors un petit peu à l'instar de ce qui pouvait se passer dans les cathédrales du Moyen-Âge français, sachant qu'effectivement, beaucoup de gens ne lisaient pas d'avoir une vertu pédagogique, bon, faire mémoire des événements, des sacrifices, alors là je cite, des rites ou des croyances maliennes à d'autres générations. Et dans un discours d'inauguration, il dit clairement que le président Connaré a été donc à l'origine de ces monuments, donc il est le véritable maître d'œuvre et la genèse de ce qui est présenté comme une page d'histoire inscrite dans l'espace public. Voulant affirmer donc une nouvelle identité du Mali, le changement survenu donc avec la démocratisation et, je cite donc, la grandeur issue d'une légitimité populaire. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que on se trouve dans un contexte, quand ces bâtiments ont été édifiés, qui est un contexte où le pouvoir malien n'est pas très bien assuré, hein, en fait. Je vous rappelle très rapidement donc les faits. Il y a à l'indépendance, vous savez, donc la prise du pouvoir de Modibo Keïta. Modibo Keïta est renversé par un coup d'État, entre autres inspiré par le général Moussa Traoré. Enfin, il n'était pas général à l'époque, mais Moussa Traoré, qui devient le second président du Mali. Toujours pas réellement élu. Et en mars 91, donc une série d'émeutes aboutissent donc à l'engagement donc de l'armée par l'intermédiaire de Amadou Toumani Touré et à la chute de Moussa Traoré, la prise du pouvoir donc par l'armée qui effectivement donc rend le pouvoir au civil après je crois à peu près 14 mois de pouvoir. Les premières élections présidentielles vraiment démocratiques se tiennent en 1992 et est élu donc Alpha Omar Konaré, historien, historien archéologue d'ailleurs, pour un mandat de 5 ans qu'il renouvelle ensuite. Et donc on arrive là avec son élection dans la troisième République du Mali. Alors le problème est que il y a eu une révolution, et donc ça c'est vraiment un pouvoir démocratique, il y a eu des morts, l'armée a tiré sur les gens. Mais une fois ce passage fait, on peut considérer effectivement qu'au Mali, pendant un moment en tout cas, il y a un climat un peu mauvais, un peu délétère. Entre autres, bon, c'est peut-être bien normal, les gens se sont soulevés quand même, il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, et il y a des espoirs qui, à mon sens, sont en partie déçus parce que ça va pas très vite. Et les retombées donc de la révolution entre guillemets, ajoutées à plusieurs autres choses, par exemple le procès des crimes de sang contre les dignitaires de l'État qui ont effectivement donc eu des actions assez répréhensibles, le procès de Moussa Traoré, et puis par ailleurs donc la gestion un peu laborieuse, même si elle a très bien réussi ensuite, de la rébellion Touareg, hein, et notamment de sa résolution après le pacte national qui devait intégrer et qui l'a fait finalement, mais après pas mal de temps, donc des rebelles dans les corps en uniforme de l'État, fait qu'à un moment donné, il y a un sentiment de défiance vis-à-vis de l'État et de ses réalisations. Peut-être l'idée que, notamment par les procès intentés donc aux dignitaires et à l'ancien chef de l'État, l'État est toujours plus ou moins corrompu, etc. Bon, donc une méfiance sensible à l'égard de l'État et de ses dirigeants. Et je pense que, c'est une interprétation encore une fois, mais Alpha Omar Konaré a voulu affirmer non seulement l'unité du pays avec cette rébellion Touareg qui la menaçait, mais aussi peut-être remettre le pouvoir malien sur son socle et essayer donc d'en faire un pouvoir qui est dans une lignée d'autres pouvoirs qui se sont succédés et qui aboutissent donc au pouvoir démocratique actuel. Alors, avant de revenir à cela et donc de conclure sur ce que j'imagine, parlons un peu de la réception, puisque c'est intéressant aussi de voir comment les choses ont pu être prises en compte par les Maliens eux-mêmes. Donc au départ, et parce que ce que je vous présente n'est pas exclusif de tout ce qui a été construit à Bamako, donc à ce moment-là, il y a des tas de petits bâtiments, monuments, etc., qui sont installés sur les places. Au départ, beaucoup de polémiques, beaucoup de débats dans la presse nouvellement libre, des critiques sur le coût de ces constructions qui apparaissent pas tellement intéressantes finalement dans un Mali assez pauvre, des critiques sur l'esthétique aussi de ce bâtiment et particulièrement sur l'inspiration étrangère de cette esthétique, hein, notamment le fait par exemple que le mur des fresques est en partie copié sur des photos coloniales, que on réutilise de la statuaire coloniale alors que bon a priori ce sont des gens qui en ont été donc des colonisateurs, hein, font que ces critiques esthétiques se portent aussi évidemment sur le choix thématique de ce qui est présenté. Donc la réhabilitation en quelque sorte de la statue que vous avez vue de Borny Desbordes est très critiquée. Bon, on aurait dû le laisser dans son terrain vague, celui-là. Bon, finalement, donc il y a au départ une réception qui n'est pas excellente. Hein. Il y a même des gens je crois qu'il est historien en fait, Fakoly Doumbi, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a très peu de temps, je cite, dit que c'est une injure permanente à la victoire, à la mémoire des résistants africains, une offense intolérable aux personnalités africaines en visite dans notre pays et au palais présidentiel, et une grande honte pour le Mali. Donc vous voyez, ça va assez loin quand même dans la critique, mais il y a aussi des réactions inverses. Alors curieusement, il y a des réactions inverses négatives, mais qui peuvent évidemment être prises comme des réactions positives. Par exemple, pour l'anecdote, l'idée que Alfa Omar Konaré voulait récupérer la statue d'Archinard, qui, donc vous savez, l'officier français qui a conduit la conquête du Soudan central en s'emparant de Ségou en 1889, et dont on avait fait ériger la statue à Ségou en 1933, qui avait été déboulonnée à l'indépendance, qui avait été abandonnée dans la cour des travaux publics de Ségou. Mais lorsque Alpha Omar Konaré a voulu l'amener à Bamako, les gens de Ségou se sont révoltés, hein, en disant non, Archinard nous appartient. Et notamment beaucoup de jeunes, hein, qui n'avaient pourtant pas connu la colonisation, se sont opposés en faisant des démonstrations, des manifestations au départ de la statue, donc considérée comme un élément en fait du patrimoine. Et donc il y a eu même des commentaires sur la seconde guerre d'Archinard, hein, et c'est vrai que finalement les gens de Ségou ont gardé leur statue. Donc au départ, vous voyez, il y a des réactions négatives, mais en même temps un peu positives, avec qui montrent aussi qu'il y a finalement une forme d'attachement à cette statuaire, même si elle est un peu reléguée. Et puis petit à petit, on s'aperçoit, et là c'est plus de l'ordre de l'observation que de la recherche de sources proprement dit que je vous présente, il y a une forme d'approbation, hein, de ces monuments, avec certainement un réel travail de mémoire qui se fait progressivement. Alors on s'en rend compte d'abord au niveau de l'acceptation par le fait que de plus en plus de gens, notamment lors des mariages, se font photographier devant ces bâtiments, hein, ces monuments, donc c'est devant ces fresques, c'est donc pas du tout anodin, c'est un signe d'appropriation. On voit aussi que lorsque des officiels extérieurs viennent, eh bien on leur fait visiter donc ces différents sites. Et puis, on voit la télévision nationale, les publicités, etc., qui s'en servent, hein, aussi pour des messages qui peuvent être diffusés au Mali ou à l'étranger. Bon, ceci dit, une enquête encore reste à faire sur la réception, mais on voit bien qu'il y a, depuis leur érection de ces différents monuments mémoriels, une évolution, au départ donc qui est assez agressive et qui est assez contre cette affaire, et puis qui progressivement donc montre effectivement une approbation, une appropriation, et certainement aussi une compréhension de l'aspect didactique et mémoriel des monuments. Alors, ce que je pourrais dire, parce que j'arrive déjà presque au bout de mon temps, c'est que, en conclusion, donc, il est évident que tous ces monuments, et que cette colline particulièrement, sont des lieux de mémoire. Alors, je vous envoie d'ailleurs sur le mémoire de DEA d'une de mes étudiantes qui a fait un excellent travail qui s'appelle Mélodie Le Van Lint sur le caractère lieu de mémoire justement de ces monuments, mais qui ne s'est pas cantonné en fait à la colline de Koulouba et qui n'a pas particulièrement traité du pouvoir, mais qui a montré effectivement que il y avait récupération d'un côté patrimonial d'une part, donc un certain nombre d'anciennes constructions coloniales, mais aussi des monuments comme le monument aux morts par exemple, qui sont récupérés donc dans cette démarche d'Alpha Omar Konaré et qui sont là aussi dans un faisceau de réappropriation. Réappropriation qui va d'ailleurs très loin, puisque le fameux monument aux morts de Bamako, vous connaissez peut-être, est assez vite quand on discute avec les gens à cette époque, et peut-être par référence à un autre monument qui a été fait ailleurs à Bamako, considéré comme finalement une représentation des pouvoirs de résistance. Hein. Alors on voit en fait en réalité un officier, même deux officiers français, je crois, qui sont devant une troupe de tirailleurs sénégalais, qui sont en position de combat. Mais un peu plus loin, il y a aussi donc une statuaire qui est faite donc à la résistance, et les gens souvent confondent un petit peu les deux et pensent que ce monument aux morts effectivement était plutôt un monument destiné à montrer la résistance aux Français. En tout cas, il y a effectivement donc la volonté de mettre en place des lieux de mémoire, volonté de représenter l'histoire de façon didactique et de façon pédagogique aussi, puisque pour que les gens comprennent rapidement, même si des critiques aussi ont eu lieu sur le manque d'explications. Hein, un certain nombre de gens dans la presse malienne ont dit que ça aurait été bien quand même de mettre quelques petites plaques pour expliquer ce que ça voulait dire, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est clair. Une réappropriation donc de l'histoire précoloniale sur le mode de la résistance, mais aussi, et c'est plus étonnant, de l'histoire coloniale. Et on voit bien qu'il y a là intégration complète de l'histoire coloniale donc à l'histoire en général du pays, et un renversement de perspective par rapport à l'indépendance, où à l'époque on gommait donc ce qu'on pouvait appeler, ce que certains appelaient la parenthèse coloniale, vous connaissez cette expression, où on rebaptisait les noms de rue, où on déboulonnait les statues, mais où finalement là on les ressort, on récupère le passé, et on l'intègre donc à une histoire de la longue durée. Donc on décomplexe d'une certaine façon l'histoire, on montre que ce moment colonial est un moment de l'histoire nationale qui n'exclut pas des moments douloureux, mais qui n'exclut pas des moments constructifs. Par exemple, on met en valeur Marchou, hein, qui est quand même un médecin colonial. Bon, donc il y a tout cet aspect-là, lieu de mémoire et réintégration finalement d'une histoire longue. Au niveau de l'État et du pouvoir, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est dans la même lignée. Hein, c'est-à-dire que il y a eu volonté, certainement, dans un moment, une phase un peu difficile du nouveau pouvoir démocratique, d'un moment d'un peu de désaffection de l'opinion par rapport donc à l'État en général et par rapport au pouvoir en général. Certainement, l'idée, il faudrait interroger Alphonse Marconnery, qui ne s'est jamais vraiment exprimé là-dessus, mais je ne l'ai pas fait encore, l'idée de réinscrire donc le pouvoir dans quelque chose à long terme, hein, un petit peu comme on crée une histoire nationale à long terme aussi. Donc un pouvoir d'État qui finalement est héritier d'une longue tradition, qui se légitime peut-être aussi par cet héritage. Et on le met en scénographie monumentale, en montrant qu'il y a une grande continuité. Hein, et que finalement, curieusement, les pouvoirs coloniaux sont en lien avec les pouvoirs précoloniaux et avec les pouvoirs postcoloniaux. Et qu'il y a donc là un pouvoir d'État qui dure hein, depuis au moins le 18e, 19e siècle, et qui continue donc au fur et à mesure du temps. Donc c'est assez contradictoire, parce qu'en même temps, il y avait volonté certainement de la part de Alpha Marc Conaré de promouvoir le côté démocratique du Mali, mais en même temps, il ne fait pas justement de rupture entre ces différents pouvoirs, qui sont pourtant de nature souvent assez autoritaire. Hein. D'une part, les pouvoirs exogènes coloniaux, d'autre part, les deux pouvoirs de Modibo Keïta et de Moussa Traoré qui n'étaient pas particulièrement démocratiques. Hein. Mais donc, il y a là, à mon avis, donc, légitimation du pouvoir en tant que tel, hein, et non pas forcément d'un pouvoir exclusivement démocratique, donc d'un pouvoir qui s'impose en fait aux Maliens et qui s'impose sous la forme d'un État malien hein, qui est à construire aussi, donc d'où l'utilité effectivement de cette construction de l'histoire nationale qui se lie évidemment avec l'idée d'une unité nationale, hein, le Mali nouveau, les 701 communes donc sur une belle carte et donc une unité territoriale hein, qui va aussi avec le pouvoir d'État. Donc voilà ce que moi je lis dans ces différentes fresques. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Et comme M. Ballandi est extrêmement indulgent, je ne vais pas en profiter.